Aujourd'hui, on reçoit Pierre. Bienvenue Pierre. Pierre Jourlin, spécialiste, docteur en informatique, spécialiste dans le traitement automatique de la langue naturelle, qui intervient notamment dans le master gouvernance des données et qui est maître de conférence à l'Université d'Avignon depuis 2000. Merci pour ton temps. Bienvenue.
Bah, merci de m'inviter.
Aujourd'hui, Pierre, le sujet, c'est comprendre sous l'angle de l'informatique l'intelligence artificielle et permettre à la communauté des juristes, mais pas que, de savoir comment l'appréhender, comprendre les opportunités et les risques qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle fait peser sur la société civile. Et je vais commencer avec une question très simple. Qu'est-ce que l'IA?
Alors, en fait, personne ne sait vraiment ce que c'est que l'IA, et même pas les chercheurs en IA. C'est-à-dire que c'est un terme qui a été, qui a eu beaucoup de succès, mais qui a changé qui a changé de définition au fil du temps. C'est-à-dire que dans les années 50, 60, 70, l'IA, c'était pas du tout celle qu'on présente aujourd'hui, hein. C'est en fait plutôt quelque chose d'une définition mouvante qui correspond à toujours à ce qu'on n'est pas encore capable de faire avec une machine et qu'on est capable de faire avec un être humain. Dans les années, on va dire jusqu'aux années 90, l'IA c'était essentiellement capter l'expertise de différents métiers, différents experts, la formaliser de manière très logique, très précise, pour pouvoir la coder sous forme d'algorithme. Et donc on avait des algorithmes qui étaient capables de résoudre des problèmes logiques, en allant au-delà évidemment des algorithmes simples, hein, de tous les jours, pour régler des petits problèmes de traitement de l'information de tous les jours. Et donc étaient capables, par exemple, de faire du raisonnement, ce qu'on appelait du raisonnement formel, logique, sur la base de règles qui ont été formalisées à partir des connaissances expertes. Et ça a dominé pendant assez longtemps, parce que justement les approches de machine learning, donc apprentissage automatique, fonctionnaient très mal à cette époque-là. Il fallait beaucoup de moyens matériels qu'on n'avait pas, hein. C'est toujours d'ailleurs, hein, très consommateur. Et bon, il y avait aussi des questions théoriques qui n'étaient pas résolues. Et donc pendant très longtemps, ce qui faisait du machine learning n'était pas très bien considéré. Jusqu'à l'arrivée d'Internet, d'abord, ben, machine learning, ça veut dire qu'il faut bien que la machine apprenne sur quelque chose, et il faut bien pouvoir lui fournir des données d'apprentissage. Et là, avec l'arrivée d'Internet et l'arrivée des cartes graphiques, des cartes de graphique pour faire des jeux vidéo, en fait, c'était à la fois l'arrivée de données massives, facilement accessibles, et l'arrivée de matériel puissant, beaucoup plus puissant pour traiter ces données. Et cette conjonction de progrès technique, électronique, et de progrès en termes d'accès à l'information, bah, ça a permis à ces approches d'apprentissage automatique de régler des problèmes qu'on n'arrivait pas à régler à l'époque avec des systèmes experts, ce qu'on appelait des systèmes experts, donc ce système à base de règles. C'est-à-dire que tous les problèmes qui ne sont pas formalisables, il y a des problèmes qui ne sont pas formalisables parce que trop complexes, il y a des problèmes qui ne sont pas formalisables parce qu'on n'arrive pas à les exprimer. Donc par exemple, le langage, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, quand on parle ou quand on écoute, on comprend sans y penser. Là, quand tu m'écoutes, tu entends bien que tu n'analyses pas ma phrase, tu n'analyses pas mon vocabulaire, la grammaire, etc. Ça vient naturellement sous forme d'image mentale dans ton cerveau. Et donc, du coup, tu n'es pas forcément capable derrière d'expliquer comment tu prononces un son, par exemple, comment tu prononces un A, comment tu prononces une consonne, que, etc. Tu ne peux pas forcément non plus expliquer comment tu reconnais un son par rapport à un autre, un son de parole par rapport à un autre. Et donc dans les années, donc quand j'ai commencé ma thèse, le thésard qui était juste avant moi, lui avait eu une approche justement formelle à base de règles. Il allait voir les phonéticiens, les phonologues, pour essayer de comprendre comment on reconnaissait la parole. Mais ces experts-là n'étaient pas capables vraiment d'expliquer assez précisément. Ils avaient une compréhension quand même sérieuse, hein, du sujet, mais ils ne pouvaient pas le formaliser. Et lui non plus. Et donc du coup, on avait des systèmes qui marchaient très mal. Et c'est là que, sur la reconnaissance de la parole, et puis après sur le traitement automatique de la langue, toutes les méthodes par apprentissage automatique qui construisent automatiquement des représentations, des classifications, des sons, des mots, etc., se sont montrées bien plus efficaces pour catégoriser le langage, quoi, hein, pour, entre guillemets, comprendre le langage, même si ça reste superficiel parce que le langage est superficiel, hein, il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, qui ne se retrouveront pas dans les données d'apprentissage. Il y a des choses, quand on transmet des idées, il y a des choses qui sont implicites, donc
Tout à fait.
qui ne sont pas transmises par le langage, qui sont transmises par l'expérience de chacun, font référence à l'expérience de chacun. Et donc, on a des méthodes qui fonctionnent mieux, mais au sens de qui fonctionnent plus largement, hein, qui sont capables de capter plus de choses. Par contre, contrairement aux règles, sont beaucoup moins fiables. Et donc là, on rentre dans la problématique de techniques d'IA pour lesquelles c'est difficile d'avoir une confiance. On n'est pas dans de la technologie. Souvent, la technologie, c'est la montre à quartz. On invente une nouvelle montre, c'est une nouvelle invention. Et cette montre est plus précise encore que ce que nous, on peut avoir comme notion du temps. Elle est plus précise que les montres mécaniques. La nouvelle IA, elle est moins précise que l'ancienne IA. Mais elle fait des choses que l'ancienne IA ne pouvait pas faire.
Comment ça se fait?
Alors ça se fait parce que l'apprentissage automatique est un paradigme de prédiction. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de démontrer quand on interagit par exemple avec ChatGPT, avec un agent conversationnel, le système ne cherche pas à comprendre, il ne cherche pas à analyser, à démontrer, à avoir un raisonnement logique. Hein. Ce qu'il cherche, c'est simplement à prédire la bonne réponse. Et la bonne réponse, évidemment, ça dépend de divers critères. Donc la version de base, la bonne réponse, c'est prédire la suite d'un texte qui a déjà été écrit. Donc le
Oui.
système va simplement, par essai-erreur, correction de paramètres, va essayer de prédire la suite d'un texte dont la suite a été masquée. C'est là-dessus qu'il a entraîné, c'est sur cette problématique-là qu'il a entraîné. Donc quand on va rentrer un prompt dans un système d'IA, ou quand on va lui envoyer un document à résumer, qu'on va lui envoyer un document à traduire, il va pas avoir une démarche logique, il va avoir une démarche prédictive, plutôt probabiliste. Mais plutôt probabiliste parce que les probabilités, c'est encore une fois, c'est un objet mathématique assez sérieux, hein, où on a derrière une notion de vérité aussi, des notions de bonne décision. La bonne décision, c'est la décision, c'est la plus probable, ou en tout cas la plus probable avec le gain. En général, on met une balance, et dans cette balance, d'un côté, on met la probabilité de gagner et le gain, on multiplie par le gain, et de l'autre côté, on met la probabilité de perdre multipliée par la perte.
Oui.
La bonne
Alors,
décision, c'est celle où la balance du côté où la balance penche. Et c'est très formel, et c'est très cadré. Donc c'est sécurisant d'une certaine façon. On n'est pas sûr de gagner, mais on est sûr d'avoir pris la bonne décision.
Ok. Alors juste pour te suivre, si on doit faire la distinction entre le traitement des données par la technologie qu'utilise mon GPS pour m'amener d'un point A à un point B et la technologie sur laquelle se fondent les systèmes LLM, quelle est la distinction?
Alors,
Comment...
la très grosse différence, c'est que le GPS, donc ça tombe dans la théorie des graphes. Donc, c'est une théorie mathématique qui est parfaitement cadrée. Hein. C'est le principe des maths, c'est-à-dire que le raisonnement, il est parfait, il est démontré. L'algorithme qui te permet de savoir quel est le chemin le plus court, le chemin le plus rapide, le chemin qui va consommer le moins. Tout le raisonnement qui permet de trouver le meilleur chemin, c'est un raisonnement parfaitement formel, prouvé, démontré. Donc là, personne ne peut sérieusement remettre en cause les algorithmes de parcours de graphes. Ça, c'est pas possible, parce que voilà, ça a été démontré, quoi. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le seul truc qui peut coincer sur un GPS, c'est les données en entrée. Si la carte n'est pas à jour, voilà, s'il y a un problème de connexion et qu'on n'a pas accès à la carte, les données d'entrée, elles peuvent être erronées. Et donc, du coup, le raisonnement, même s'il est parfait, à la fin. Un raisonnement parfait avec des données qui sont fausses donnera des conclusions qui sont fausses. Mais on a au moins la garantie que le raisonnement est correct.
Très bien.
L'IA prédictive, c'est pas du tout ça. On a un système un peu comme tous les animaux, hein, qui font des expériences, des erreurs, qui vont éviter de refaire les mêmes erreurs, si possible, mais qui continueront à en faire. On a un système qui optimise une sortie par rapport à une entrée, toujours, mais cette fois-ci, évidemment, sans vérification de l'entrée du tout, hein. Donc les modèles, ils ont été entraînés. Et là où c'est plus risqué encore, c'est que le modèle, il va faire des sortes de généralisations. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais il va chercher à généraliser des choses de manière à pouvoir répondre à des entrées qu'il n'a pas vues dans son apprentissage. Donc il va développer certaines représentations lui permettant de faire ça. En stats, pour pouvoir faire des statistiques, il faut une répétition d'un même événement. Là, ce n'est pas ça qui se passe. C'est qu'il n'y a pas de répétition. Donc il faut être capable de. Il faut que le système soit capable de faire des paris,
Est-ce
d'une
que,
certaine façon. De
est-ce que,
parier sur des représentations, de parier sur des catégorisations.
d'accord, est-ce que c'est ça qui amène l'IA à créer des biais, par exemple?
Alors, les biais, c'est pas ça, hein. Les biais, c'est les biais des données. C'est-à-dire que comme l'IA apprend de manière un petit peu aveugle sur des quantités gigantesques, hein, mais vraiment gigantesques, de données langagières, hein, de textes qui ont été produits sur Internet, de textes ou d'audio, hein, qui ont été produits par des humains et mis en ligne, et ben, du coup, il reproduit les biais de l'être humain. Et sur Internet, il y en a déjà de base, hein, par définition, parce que Internet ne représente pas toute la population mondiale de façon équitable. C'est essentiellement les pays riches, hein. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que les IA prédictives ou génératives, à peu près la même chose, étaient weird. Donc weird, c'est pour WEIRD. Alors je ne l'ai plus en tête, mais c'est Western, en gros, hein, les pays riches, occidentaux, etc., etc. Donc c'est ça qui domine, et donc du coup c'est cette représentation-là qui domine dans les textes qui sont appris, et donc du coup c'est pas surprenant que l'IA, quand elle répond, elle a aussi ce comportement-là, elle normalise un petit peu ce qui est dominant sur Internet.
D'accord. Donc,
Et donc elle se comporte un peu comme un occidental de classe moyenne, blanc,
OK.
etc., etc. Elle capte ce qui domine. Donc
OK.
elle capte finalement ceux qui produisent de l'information et qui sont les dominants dans la société, quoi.
Donc, c'est elle contribue à une aggravation d'un comportement dominant dans tous les cas.
Elle peut, ouais, elle peut. Elle peut effectivement. Après, il y a des garde-fous quand même, hein. C'est-à-dire que OpenAI, quand ils ont sorti ChatGPT, ils avaient bien conscience, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs avant. Et ça, les gens ne le savent pas forcément, mais il y a eu beaucoup de scandales dans les IA prédictives. Donc, par exemple, il y avait une IA de Google qui avait répondu à un couple afro-américain dans une reconnaissance d'image qui voyait des gorilles.
Oui.
Donc évidemment, gros scandale. D'ailleurs, la polémique tournait autour d'une IA raciste, alors que c'est pas ça exactement. C'est-à-dire que l'IA avait pas eu assez de données pour apprendre, et donc du coup, comme elle avait vu plus de gorilles que d'Afro-Américains, eh ben, elle associait la couleur sombre au
D'accord.
terme gorille. Hein, faut voir que c'est vraiment de système très bête. Hein. Comme je disais, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de déduction. C'est un système purement prédictif. Donc, si on lui envoie systématiquement des images sombres qui sont associées au mot gorille, elle sortira gorille quand elle verra une image sombre. Que ce soit un Afro-Américain, ou que ce soit un tableau noir, ou que ce soit du charbon, elle dira gorille. Voilà.
D'accord. Est-ce que du coup, est-ce que l'invisibilisation d'une partie de la société fait que l'IA ne la prend pas en considération?
Ben, elle ne peut pas prendre en considération ce qu'elle n'a pas vu pendant son apprentissage. C'est pas possible.
OK.
Elle a appris dans ce milieu-là, hein, ce milieu weird, et elle peut sortir que des représentations qui sont issues de ce milieu-là. Ce qu'elle peut faire, c'est normaliser, c'est-à-dire en fait moyenner. Ce qui fait que souvent, les IA, les agents conversationnels sont très polis, très lisses. Hein, ils n'ont pas d'opinion. Ils essaient d'être le plus normé possible. mais normé par rapport à la norme dominante dans les données d'apprentissage.
D'accord.
Il y a eu un autre scandale, c'était Tay, l'agent Tay, qui était une IA adolescente, qui devait apprendre en même temps, et c'est Microsoft qui a fait ça, hein, qui l'a mis dans la nature, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Des groupes d'ultra-droite s'en sont emparés et lui ont appris à avoir des représentations ultra-sexistes, ultra-racistes, etc. Donc, deuxième scandale. Et donc, quand OpenAI est arrivé, ils savaient tout ça, hein, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se rater là-dessus. Donc, ils ont ce modèle prédictif qui prédisait le mot suivant. Ils l'ont réentraîné avec une approche qu'on appelle renforcement, apprentissage par renforcement. Pour ça, ils ont sous-traité à une entreprise d'Afrique de l'Ouest avec des salaires très très bas, 1 dollar de l'heure. Donc ça aussi, c'est publié. Hein, chaque fois que je dis quelque chose, c'est pas,
Oui, bien sûr.
c'est que j'ai vérifié l'info. Et donc ils ont, et donc tout le monde peut la vérifier d'ailleurs l'info. Hein, suffit de faire une recherche internet, c'est des sources qui sont très fiables. Donc 1 dollar de l'heure pour simplement le fameux pouce en haut, en bas, avant de mettre ChatGPT de le rendre public, il demandait à des travailleurs d'Afrique de l'Ouest de lire les réponses de l'IA et de censurer entre guillemets les passages, les réponses les plus choquantes, de manière à ce qu'avant la mise à disposition du grand public, le système soit quand même un petit peu verrouillé, et fasse pas de réponses scandaleuses qui auraient créé des polémiques et qui auraient mis en danger la politique de recherche d'investissement, quoi, d'investisseurs.
Est-ce que c'est les garde-fous dont tu parlais tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a d'autres garde-fous qui ont été mis en place?
Alors il y a d'autres garde-fous, c'est-à-dire que en fait pour la plupart des IA, c'est des IA propriétaires, donc on n'a pas accès, nous les anciens chercheurs, on n'a pas accès à leur code, ni à leur jeu d'entraînement. Donc ça veut dire que on voit bien quand on l'utilise, on voit bien qu'il y a plein de dispositifs extérieurs aux principes fondamentaux, quoi, de l'IA. Il y a bien une IA prédictive, générative, mais autour il y a des algorithmes aussi pour pas que l'IA vous réponde si vous demandez comment fabriquer une bombe ou une arme chimique, pour éviter que la réponse soit insultante ou offensante. Voilà, il y a plein de techniques. Alors, il y a des techniques de type vraiment réseau de neurones, hein, comme ce que j'ai dit, hein, le renforcement, des techniques de classification automatique par apprentissage automatique, mais il y a aussi probablement, hein, d'autres techniques plus classiques, hein, de filtrage. Mais en fait, on n'a pas accès, hein, à leur code ni à leur dataset, donc on peut pas vraiment savoir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a autour. On sait ce qu'il y a dans le fondement, mais on ne sait pas ce qu'il y a autour. Et pour les IA, par contre, qu'on appelle open source, c'est-à-dire qu'on peut télécharger, installer, quand on a le matériel suffisant, on en sait un petit peu plus, mais là, dans ces IA-là, il y a très peu de garde-fous. Donc voilà, c'est vraiment difficile de répondre à cette question.
Une IA cherche plus à avoir un pouce levé, donc à donner une réponse satisfaisante, ou à avoir une bonne réponse.
Alors, elle cherche rien parce qu'elle n'a pas d'intention, mais elle a été entraînée d'abord pour prédire, et c'est un mélange des deux, donc c'est pas possible vraiment de répondre à ça. Elle a d'abord été entraînée pour prédire, pour donner la réponse la plus probable par rapport à ce qu'elle a vu. Encore une fois, probable avec des guillemets, hein, parce que ce n'est pas des probabilités au sens mathématique, c'est plutôt au sens commun du terme. Et en même temps, elle a été entraînée aussi pour plaire. Donc c'est un mélange de ces deux choses. Elle va vous répondre ce qui est le plus normé, au final, mais ce qui est aussi le plus apprécié par les utilisateurs.
T'as eu l'occasion de m'expliquer, mais j'avoue qu'une deuxième explication est la bienvenue, le système d'inférence sur lequel se fonde l'IA. Est-ce que tu peux revenir sur cette explication-là?
Alors, l'inférence, c'est la prédiction. Donc, c'est vraiment pour nous, c'est vraiment le synonyme, hein. Inférence, c'est peut-être plus le terme qui est utilisé par les techs, et la prédiction plus par les scientifiques. Mais c'est ça, hein, repenser à ce qu'elle a été entraînée en lui donnant des textes existants et en masquant la suite. Donc elle a été entraînée pour prédire la suite d'un texte existant. Évidemment, comme il y a énormément de textes, elle doit aussi prévoir des textes qu'elle n'a pas vus. Hein, ce n'est pas juste un dictionnaire, ce n'est pas juste un catalogue de discours dans lesquels on a à la fois le début et la fin. C'est pas ça, parce qu'elle doit aussi prédire des choses quand elle n'a pas vu l'entrée. Donc elle a appris sur des quantités énormes de textes, mais le langage, c'est un système avec des symboles finis, mais qui génère des discours infinis, hein, une possibilité infinie de discours. Prononcer une phrase, cherchez-la sur Internet, il y a peu de chances que vous la trouviez, parce que la combinatoire est telle, il y a tellement de possibilités de faire des phrases, de faire des discours, qu'il y a une infinité de possibilités. Donc du coup, elle peut pas faire vraiment des statistiques. Donc c'est ça qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire qu'elle va essayer de combler les trous. J'ai déjà vu ce mot, j'ai déjà vu ce mot, j'ai déjà vu ce bout de phrase, j'ai déjà vu ce terme, mais j'ai pas vu cette phrase-là. Donc il va falloir que je fasse un pari, sachant que j'ai vu d'autres phrases qui, alors je vulgarise vraiment là, hein, parce que c'est pas vraiment ça au niveau mathématique, mais c'est pour qu'on comprenne un peu. Donc j'ai vu ces mots-là dans ce contexte-là, oui, d'accord, mais cette phrase-là, ce discours-là, je l'ai jamais vu. Mais en me basant sur ce que j'ai déjà vu, je vais parier que la suite, ça va être ça. Ce qui va satisfaire l'utilisateur, ça va être ça. Ou ce qui aurait pu être le plus probable, ça va être ça.
Très
Voilà, c'est
bien.
un peu cette logique-là. Du coup, il y a des erreurs à la fois factuelles, hein, quand on interroge l'IA, mais il peut y avoir aussi des erreurs de vocabulaire. Alors c'est un peu plus technique, ça. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais pour les langues qui ne sont pas l'anglais, parce que le découpage en mots, ce qu'on appelle les tokens, les jetons en IA, ce découpage en mots, il marche bien pour l'anglais parce que c'est sur l'anglais qu'il a été appris. Parce que même le découpage en mots, c'est quelque chose qui est issu de l'apprentissage automatique. En gros, quand on fait le parallèle entre les jetons qui sont des mots entiers ou des groupes de mots ou des sous-mots, des parties de mots, donc ce fameux jeton, quand on regarde sur l'anglais, on va avoir un jeton par mot quasiment. À peu de choses près, un mot c'est un jeton c'est un mot, et par contre dès qu'on change de langue, on va avoir souvent plusieurs jetons pour un seul mot dans une langue. Ce qui fait que même en termes d'erreur, pour le français par exemple, moi j'ai déjà constaté dans le milieu médical, hein, donc c'est quand même quelque chose avec des conséquences qui peuvent être assez dures pour les utilisateurs, une IA qui invente des termes médicaux qui n'existent pas. Et comme je ne suis pas médecin, bah du coup j'ai dû les chercher. Je me suis dit, tiens, j'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est sûrement un terme très technique qui existe. Et je l'ai cherché, je l'ai trouvé nulle part, parce que c'était une pure invention.
D'accord, très bien, je
Mais
comprends
c'était
mieux.
probable, de son point de vue, c'était un mot qui était probablement là, à ce moment-là, cet endroit-là. Voilà.
Ok, d'où
Même si.
la...
Parce qu'elle n'a pas accès au sens. Elle n'a pas accès à la réalité, à ce à quoi font référence les mots. Pour nous, ça peut être des émotions, ça peut être des concepts, ça peut être des expériences. Elle n'a pas du tout accès à la sémantique réelle. Elle a accès qu'à la surface. Et donc, elle prédit la surface. C'est nous qui transformons en mots, en prompt, nos intentions, nos idées, nos représentations. L'IA va générer une réponse, mais c'est nous qui faisons l'interprétation de la réponse.
Et
C'est pas elle.
puis un même mot, selon la zone géographique, aura un sens tout à fait différent.
C'est ça, un contexte, et puis la personne même qui le reçoit, hein, ça fait la personne qui le reçoit fait aussi partie du contexte dans l'interprétation. Et par contre, du coup, ça engendre d'autres problèmes, c'est que quand on interprète, on a tendance à. On a identifié à peu près 150 biais cognitifs chez l'être humain. Et donc, dans ces biais cognitifs, il y a le biais de confirmation. C'est-à-dire que c'est un gros danger parce que l'IA nous fait une réponse, on a envie de la croire. Si elle nous dit quelque chose qui nous plaît, on a envie de la croire et on a envie de se servir de ça comme d'une preuve qu'on avait raison. Et ça, c'est vraiment très problématique. Mais il y a plein d'autres biais, hein. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la réponse de l'IA, c'est la réponse de l'IA plus notre interprétation.
Tout à fait.
Et c'est le mélange des deux qui est vraiment la source de beaucoup de problèmes aujourd'hui et qui restera la source de beaucoup de problèmes dans le futur. Aujourd'hui, il n'y a eu aucune encore publication scientifique, donc validée hein, par la communauté scientifique, qui présenterait une IA sans hallucination. Les seules hallucinations, c'est toujours entre guillemets, hein, parce que c'est un terme grand public, mais la vérité sans erreur, quoi. Hein, j'ai pas encore vu une seule publication dans l'IA basée sur l'apprentissage automatique. Encore une fois, l'IA basée sur les règles, hein, sur les systèmes experts, celle-là fait pas d'erreur, hein, dans le raisonnement. Mais elle couvre pas toutes les applications, elle peut pas aujourd'hui couvrir tout ce que l'IA générative et prédictive couvre en termes d'applications utiles, quoi, de fonctionnalités, de systèmes opérationnels.
Oui, parce que je suppose que les données sur lesquelles, par exemple, le GPS fonctionne pour avoir des certitudes, on ne peut pas cartographier tous les domaines dans lesquels on questionne l'IA de manière aussi précise. C'est un
Ben
peu ça.
le langage, hein.
Oui.
Le langage est trop complexe. C'est pas le langage, c'est pas un graphe, hein. C'est pas des choses qu'on peut. C'est pas une image satellite. On peut pas faire une image satellite de notre cerveau. Et donc par définition, on n'a pas une carte précise du cerveau. Donc on peut pas tout traiter. On peut traiter plein de problèmes, mais pas des problèmes trop complexes ou trop flous. Il y a aussi bien cette question de flou, et le langage est flou, et la pensée humaine est floue.
Ok, bon, moi j'apprécie d'entendre ça et de me dire que notre cerveau a encore quelque chose à apporter, même avec l'évolution rapide de l'IA. Comme tu le sais, l'objectif de notre conversation, c'est aussi de comprendre les implications de l'IA dans le monde du droit. Et notamment avec l'illustration de l'usage de l'IA par les juristes, que ce soit les avocats qui sont soumis à un secret professionnel fort, que ce soit les juges qui vont demain rendre la justice et utiliser des outils d'IA pour plein d'intérêts positifs, hein, qu'ils soient la rapidité, le traitement de cas habituels. Mais aujourd'hui, quels sont les risques et comment doit-on se prémunir face à un usage qui serait erroné de l'IA?
Alors, pour moi, un des premiers risques, c'est la confidentialité. Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver des solutions, hein, mais le risque principal, pas qu'en droit d'ailleurs, hein, beaucoup dans le monde de l'entreprise, le risque principal, c'est qu'il y a finalement peu de personnes qui réalisent que quand ils discutent avec une IA, leurs données. Les données qu'ils envoient à l'IA, hein, parce que des fois c'est juste un prompt pour avoir une réponse, c'est là où d'ailleurs l'IA est souvent la plus mauvaise, parce qu'on le fait appel à sa mémoire, hein, ce qu'elle a enregistré, et on ne lui demande pas d'analyser quelque chose qu'on lui fournit. Mais beaucoup de gens, les usages les plus fréquents, ça va être la traduction. Par exemple, j'ai un texte en français, je le veux en anglais, l'IA fait souvent mieux le travail que quelqu'un qui a un niveau moyen dans la langue cible. Par exemple, moi, c'est mon cas, hein. Quand je demande à une IA de traduire du français en anglais, je vais quand même vérifier la sortie, mais disons que je fais des erreurs moins graves qu'elle, dans la traduction en anglais, mais je fais plus de petites erreurs qu'elle. Voilà. Et évidemment, ça me fait gagner énormément de temps parce que j'ai pas à regarder un dictionnaire, à chercher des traductions correctes de telle ou telle expression. Mais il faut bien avoir conscience que quand on fait ça avec Mistral AI, je commence par eux parce qu'ils sont connus comme étant français, et puis du coup, c'est l'indépendance, etc. En vrai, c'est quand même une entreprise, et c'est vrai, hein, qui est dirigée par des Français, mais par contre, qui a quand même des capitaux états-uniens.
Tout à fait.
OpenAI, Gemini de Google, enfin bon voilà, toutes les IA propriétaires, donc à code fermé, et ben du coup on leur envoie des données. Et on peut leur envoyer évidemment le prompt, l'intention, ce qui est peut-être le moins grave, mais on peut aussi leur demander de traduire ou de résumer un document, et c'est un document d'entreprise, ou c'est dans le cadre juridique, c'est les documents d'un client, il y a des données personnelles, il y a des choses très très sensibles, ça peut être dans le domaine médical aussi. dans le cas d'un docteur et d'un patient. Il peut envoyer des données patients à une IA externe. Alors, heureusement, c'est cadré par la loi, hein, mais ça peut être extrêmement grave. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise, je sais, hein, ça a été publié, ça aussi, hein, il y a beaucoup des études qui ont été publiées, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui s'inquiètent, à juste titre, hein, des usages par leurs employés de l'IA générative. Alors, il y a une façon de contrer ça, c'est que il y a eu tout un mouvement du libre, évidemment, du logiciel libre qui est assez ancien, mais dès les débuts de l'IA générative et avant même l'arrivée de ChatGPT, mais longtemps avant l'arrivée de ChatGPT d'OpenAI, il y a une communauté du libre en IA prédictive et générative qui s'est créée. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de modèles, de systèmes d'IA qui sont ouverts, qu'on peut télécharger, installer localement, etc. Et donc on peut sécuriser, dans lequel les données peuvent être, bah, la manière la plus radicale, hein, ça serait d'avoir une IA dans son entreprise où les données sortent pas du tout, hein, vont pas du tout sur Internet, ni en entrée, ni en sortie, ça reste à l'intérieur de l'entreprise, sur les disques durs de l'entreprise. Et là, c'est la sécurisation maximale. Une autre façon de sécuriser, c'est d'avoir un data center fiable, hein, d'avoir un prestataire, mais un prestataire avec des contrats très solides qui garantissent que toutes les questions de cybersécurité, de confidentialité, etc.
Mais est-ce que ce ne serait pas là au détriment de l'efficacité de l'IA? Parce que l'IA qu'on installerait entre guillemets chez soi serait entraînée sur moins de données et donc serait moins efficace. Non?
Alors non, elle est entraînée sur autant de données. Par exemple, la dernière mouture, c'est Llama 4, Llama 4, hein, donc celle-là, c'est l'entreprise Meta, Facebook, Instagram, qui a entraîné un modèle, c'est un des plus gros modèles, hein, il est sorti il n'y a pas longtemps, donc chaque fois les modèles sont de plus en plus gros. Là, on va parler de 600 milliards, non, peut-être même plus, 1000, on arrive à 1000 milliards de paramètres. Les paramètres, c'est des nombres à virgule, hein, des nombres décimaux. Donc 1000 milliards, c'est les paramètres du système. Et donc c'est un des plus gros modèles. Il a été entraîné sur des données gigantesques, au point où je crois qu'il y a des affaires juridiques, hein, parce qu'il aurait été entraîné sur des œuvres sous copyright. Donc c'est pour dire à quel point ces modèles sont gourmands. Les textes disponibles librement sur Internet leur suffisent plus. Ils sont obligés maintenant de taper dans les textes protégés, quoi. Et donc ce modèle-là est open source. Ça peut être surprenant, mais il est open source. C'est-à-dire que vous pouvez le télécharger. Tout le monde peut le télécharger. Alors après, pour le faire fonctionner tel quel, il faut une belle machine quand même, hein. Une machine facilement à 20 000, 30 000 euros. Mais il y a des techniques de quantisation, pas rentrer trop dans les détails techniques, mais c'est des méthodes qui permettent de réduire la taille des paramètres et le nombre de paramètres et d'avoir des performances comparables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des versions réduites, on va dire, qui ont été apprises avec la même quantité, hein, puisque on est parti du modèle Llama 3, Llama 4. Et on l'a modifié de manière à ce qu'il soit plus efficace, moins consommateur d'énergie, moins consommateur de ressources matérielles. Et ça peut tourner localement, en tout cas peut-être pas chez le particulier, ça sera un peu compliqué, mais en tout cas dans une PME, c'est parfaitement envisageable d'investir dans une machine qui peut faire tourner ces modèles-là, et donc où les données ne sortent pas.
D'accord, mais du coup, bon, une fois que elle est installée en interne pour son entraînement et pour des potentielles mises à jour, là, on va avoir besoin de main-d'œuvre, d'accès à plus d'informations. Enfin, est-ce qu'en la débranchant, entre guillemets, on ne prépare pas le fait qu'elle soit obsolète? Non?
Pas nécessairement. Alors, d'abord, il y a des techniques toujours des techniques de renforcement, enfin d'apprentissage par renforcement qu'on peut déployer localement aussi, hein. Mais de toute façon, le particulier ou la PME, elle a moins besoin d'augmenter les données que des spécifiés. C'est-à-dire que j'imagine pas une PME dans le domaine juridique. J'imagine pas qu'elle ait besoin d'alimenter son IA avec des données culturelles, artistiques, cinématographiques, théâtrales. Elle aura plus besoin de la spécialiser.
Tout à fait.
Et à partir du moment où elle a besoin de la spécialiser, elle a plutôt intérêt à maîtriser aussi sur quoi elle va se spécialiser. Et donc à fournir ses propres données pour son apprentissage ou pour renforcement.
Mais du coup, donc pour être renforcé, on a besoin de, par exemple, d'une quantité d'avocats pour lui dire quand elle a tort ou raison.
Ça peut être ça.
Ouais, ok.
Ça peut être ça, mais il y a aussi des techniques pour la renforcer avec des tests juridiques. Par exemple, alors on a parlé vite fait de la directive RGPD sur la confidentialité, mais il y a aussi la directive Open Data qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, tous les textes, toutes les décisions de la Cour de cassation
Tout à
sont
fait.
librement téléchargeables par n'importe qui. Ça peut être utilisé comme et anonymisé en plus, hein, bon, plus ou moins bien, parce que moi j'ai vu des petites erreurs, mais. Ça peut être utilisé pour renforcer une IA, simplement pour la spécialiser dans le domaine juridique, en utilisant les décisions du.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a toutes les données concernant les entreprises qui sont également
C'est ça.
accessibles par API. Oui, ok,
C'est
très bien.
ça. On pourrait très bien imaginer une entreprise. Certaines entreprises ont des collections documentaires très 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 importantes, avec des données techniques, avec des données administratives, financières, etc. Si on considère que l'IA reste dans les locaux et il n'y a pas de fuite, hein, on assure vraiment la sécurité, bah pourquoi ne pas la réentraîner avec des données propres?
Ok,
Comme
très
ça,
bien.
elle devient spécialiste et elle devient meilleure qu'en restant généraliste sur la base des modèles pré-entraînés de Meta ou d'autres.
Ok. Si on revient à notre juridiction qui utiliserait cette IA pour analyser des pièces au dossier, pour préparer le travail du juge, quelles sont les sécurités qu'il faudrait mettre en place, les garde-fous? Pour être sûr de qu'il n'y ait pas d'influence négative de l'IA dans le processus qui permet de rendre la justice.
Alors moi, de mon point de vue, la première chose, c'est de faire des tests sérieux, hein, des tests d'utilisation vraiment sérieux dans un premier temps. Et là, il faut avoir conscience que y a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire au plus l'IA est performante, au moins elle fait d'erreurs et au plus c'est risqué. Parce que une IA qui fait régulièrement des erreurs, on s'en méfie. Et c'est une bonne chose. On va vérifier. Car moi, quand j'utilise une IA, j'utilise toujours en mettant en tête, c'est un stagiaire. Il est là pour apprendre, il n'a pas tout compris. Donc je vais systématiquement repasser sérieusement, relire chaque mot, chaque concept, comme si c'était quelqu'un qui apprend. Voilà. Donc il va me faire gagner du temps, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas envie de faire. Mais ce temps gagné, je ne veux pas le perdre en ayant laissé passer des erreurs. Voilà. Si on sort de ça, et le problème d'une IA qui ne commet pas d'erreur, c'est qu'à la force de l'habitude, on va faire de plus en plus confiance. Et si elle fait une erreur, elle peut avoir des conséquences catastrophiques, vraiment catastrophiques. Alors qu'une IA qui commet des erreurs régulièrement, donc peut-être qu'il y a des choses à regarder du côté de s'assurer d'un maintien de l'attention de l'utilisateur. Voilà, mettre en place un dispositif pour que le juriste soit toujours attentif à la sortie de l'IA. Un peu comme si il encadrait un stage. Enfin, je sais pas si mon image elle est bonne, mais c'est sûrement un peu ça.
Donc on doit se méfier de notre propre biais de confirmation.
Oui, c'est
Ok.
ça, exactement. Ouais. Parce qu'on a toujours envie de croire ce qui nous fait plaisir.
Ok.
Voilà. Et on a toujours envie de croire parce que. Alors, le gros danger aussi, c'est que en temps normal, on va dire qu'on a toujours un niveau d'attention qui est assez important. Mais dans la vie en entreprise, ou dans mes vies professionnelles de manière générale, il y a toujours des moments très tendus où, par exemple, on a une date limite. Et là, on va aussi avoir une tendance à baisser la garde. Parce que il faut rendre le travail d'ici demain. Donc habituellement, je passe une bonne heure à vérifier les résultats de mon IA. Là, j'ai pas le temps et je dois mettre dans la balance le fait d'être en retard, de payer éventuellement des pénalités de retard, avec le fait de prendre le risque de faire trop confiance à une IA. Voilà, mais ça, c'est des trucs généraux en fait. Hein. C'est pareil. Si on se met dans la logique de c'est toi stagiaire, on aura la même façon de faire. On se posera le même type de questions.
Très bien. Est-ce que, par exemple, dans ce processus, dans un processus d'analyse de pièces, l'IA pour nous satisfaire pourrait ne pas analyser une pièce qui est originale, qui n'est pas habituelle, pour rentrer dans le moule de cas de figure connus, pour aller chercher notre satisfaction plus que. Est-ce qu'elle pourrait finalement cacher des éléments qui sortent des choses habituelles pour accélérer le processus?
Je suis pas sûr d'avoir compris la question là.
Ok, alors.
Il faut faire attention. C'est que dans une question sur l'IA, il faut faire attention à l'anthropomorphisme. Parce que l'IA n'a pas d'intention. Donc elle ne va pas cacher. Tu
Non, tout à fait, tout à fait. Mais
vois ce que
alors, je vais faire la comparaison avec un processus de recrutement. Par
je veux dire? Ouais.
exemple, une IA avec un biais, je vais lui demander de m'accompagner dans le recrutement d'un directeur ou d'une directrice. Comme dans 90% des cas, dans sa base de données Weird, elle aura eu des hommes blancs, cinquantenaires, enfin voilà, cliché. Est-ce que elle va donc elle serait susceptible de me présenter que des hommes qui entrent dans ces caractéristiques-là?
D'accord.
Ok, parfait. Donc, si on rapporte ça aux différents éléments qui peuvent se retrouver dans un dossier, est-ce que l'IA qui préparerait le dossier du juge pourrait, non pas donc volontairement, mais dans son processus, évincer des pièces.
Ah oui, d'accord.
Voilà, ok, c'est plutôt dans ce sens-là.
Ouais,
Est-ce que.
d'accord. D'accord. Ben, si on se place dans une tâche de, par exemple, de résumé automatique,
Ok.
c'est-à-dire que le dossier fait 10 000 pages, et on demande. Alors déjà, ça marche très mal, hein, techniquement, mais encore sans rentrer dans les détails. Le résumé automatique, c'est ce qui marche le moins bien avec les IA génératives, parce que ça demande d'avoir un contexte important. Les IA génératives ont des contextes qui fonctionnent, mais relativement courts. Tout simplement parce que comme c'est basé un petit peu sur une approche statistique, au plus le contexte est long, au plus il apparaît rarement. Donc du coup, sur résumer par exemple un dossier de 10 000 pages, les IA vont marcher très très mal. Mais en plus de ça, elles ont été entraînées aussi pour résumer, hein, pour faire du résumé, sur des cas généraux, sur la base de ce qu'elle a vu dans l'apprentissage, des phrases longues, des phrases courtes, etc., etc. Et bien sûr, ça inclut tous les biais. Donc effectivement, les choix, les sélections, la décision de garder ou pas telle information dans un résumé par rapport à l'ensemble d'un dossier, cette décision, elle doit être vue par l'utilisateur comme étant aléatoire, hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment, c'est pas explicable. On parle de boîte noire, hein. Boîte opaque en tout cas, hein. Même les chercheurs. Il y a toute une activité de recherche qui est sur l'explicabilité de l'IA prédictive.
D'accord.
C'est de l'ordre de la recherche, c'est donc de l'ordre de l'exploration. Pour l'instant, on n'a pas de solution, c'est ça que ça veut dire aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de fournir réellement des explications des décisions, qui par ailleurs est dans l'IA Act, hein. On ne peut pas déployer une IA aujourd'hui en Europe. Si elle prend des décisions qui impactent la vie des gens et qu'elle ne peut pas expliquer la décision, sur quels critères elle s'est basée pour prendre la
Tout à fait.
décision. Ce qui va fortement limiter les usages de l'IA par exemple dans l'ARH, hein, mais il y a d'autres cas d'usage, hein, dans l'ARH, hein, mais en tout cas dans le recrutement, ça va être très compliqué de le déployer en étant en accord
Avec
avec
l'IA,
l'IA Act.
avec les actes, oui, c'est vrai.
Et oui, bien sûr, il y aura des biais, bien sûr, il y aura tout ça. Et pour dire, il y a eu des modèles qui avaient été testés des modèles de décision pour accorder ou non des prêts. Évidemment, les banques avaient énormément à gagner là-dessus, donc elles ont mis beaucoup d'argent dans des systèmes de prédiction de la capacité de rembourser. Ils ont donc entraîné, à un moment donné, il y avait une expérience où ils avaient entraîné l'IA avec des quantités phénoménales de dossiers de prêts. mais aussi derrière la décision, enfin le résultat. Donc elle avait pour son apprentissage des dossiers de prêt, et est-ce que ce dossier de prêt, ce prêt a été remboursé? Et ils avaient donc donné vraiment toutes les données. Donc dans ces données-là, il y avait le prénom et le nom de famille. Et nécessairement parce que il y a aussi des biais dans la société sur le remboursement des prêts. Hein. Ça dépend de, on n'a pas la même capacité de rembourser quand on est issu d'une vieille famille française avec un carnet d'adresses rempli à craquer, ou quand on est primo-arrivant ou deuxième génération et qu'on connaît peu de monde. Donc finalement, ce qu'elle a appris, c'est que le plus simple, le facteur le plus déterminant pour prédire la capacité à rembourser un prêt, c'était le nom de famille. Voilà. Donc dans le domaine juridique, c'est quand même assez sensible, hein,
Ce
j'imagine,
sera
ce genre de choses.
discriminatoire. Enfin, n'ayons pas peur des mots,
Voilà.
ce sera de la discrimination. Ok. Alors, du coup, qu'il existe plusieurs recherches, et notamment des startups qui font des recherches sur la possibilité de détecter des contenus de quelque nature que ce soit réalisés par l'IA. Et donc ce sont des IA qui détectent le travail d'autres IA. Est-ce que tu peux me dire si c'est possible ou pas?
Voilà, alors ça me paraît très difficile, mais extrêmement difficile, parce que quand on a compris la mécanique, hein, qu'il y a derrière une IA générative, au final elle cherche à imiter le langage humain par rapport à ce qu'elle a appris. Sans faire du plagiat mot pour mot ou phrase pour phrase, elle va avoir tendance à reproduire le langage humain. Donc c'est difficile. Et on peut être perdu là-dessus parce que y a tout type de publications. Donc il y a des publications qui affirment que le test de Turing, le fameux test de Turing, le test d'imitation, les derniers ChatGPT vont donner du 75%. Et donc c'est-à-dire que le test de Turing a été, hein, c'est un truc qui a
Alors,
fait le buzz il n'y a pas longtemps.
est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qu'est le test de Turing rapidement?
Alors c'est ouais c'est alors ce qui est un peu compliqué derrière, c'est que Turing en 1950, quand il écrit dans Machine Intelligence, il écrit Est-ce que les machines peuvent penser? Et c'est un texte qui est peu mathématique, qui est plutôt philosophique et qui est pas la spécialité d'Alan Turing. Donc c'est compliqué d'analyser et d'interpréter vraiment ce qu'il a écrit dedans. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que on peut pas savoir si les machines pensent, parce qu'on peut pas savoir si nous-mêmes on pense, enfin l'autre pense. Et il faudrait être dans son cerveau pour savoir s'il pense. Mais par contre, ce qu'on peut faire, nous, c'est avoir l'impression ou pas que la personne avec qui on discute, elle est humaine ou pas. Donc il prévoit un test, un blind test, un test à l'aveugle, dans lequel on a à la fois des personnes et une IA. Qui répond à des questions d'une personne humaine. Et si la personne humaine ne peut pas faire la différence entre la machine et la personne, du coup, c'est que la machine pense. Mais c'est à moitié une blague. On ne sait pas trop ce qu'il a voulu dire là-dessus. C'est un peu sur le ton. Enfin, moi, j'interprète comme étant une blague. D'une part, enfin, il y a plein de choses à dire sur le test de Turing. Il y a une autre chose, c'est que notre cerveau n'est pas entraîné à faire ça, parce qu'on n'est jamais confronté dans notre vie, dans notre enfance ou quoi que ce soit, à cette problématique. Est-ce qu'une fois on a été vraiment habitué, est-ce que c'est un enjeu pour nous de faire la différence entre une machine et un être humain? Non.
Pas pour
Donc
notre
notre cerveau n'est
génération.
pas entraîné pour ça. Donc voilà, le test de Turing, il ne veut pas dire grand-chose, enfin, c'est très polémique. Et d'un autre côté, on voit passer des études qui disent, donc une en particulier que j'ai en tête, qui dit que sur les tests journalistiques, ils ont réussi à identifier avec 98% de réussite à faire la différence entre un texte écrit par un journaliste professionnel et un texte écrit par une IA générative, où le prompt est une demande d'article journalistique. Mais ça, c'est crédible, hein, c'est une publication scientifique, j'y crois parfaitement. Mais pourquoi? Parce que le style est différent. Le journaliste, il a sa personnalité, il a aussi son professionnalisme. Il n'écrit pas un article moyen. Il écrit un article pour qu'il soit lu, qu'il soit respecté, pour qu'il fasse de l'audience. L'IA, elle va chercher à imiter quelque chose de moyenne. Cette technique qui est un petit peu probabiliste va moyenner et sortir un texte beaucoup plus terne, beaucoup plus
Parce que
modéré. Il
finalement,
n'y a pas d'opinion.
elle comprend pas le but de l'article,
Ah non, elle
l'IA.
comprend rien du
Donc,
tout. Non, non, non. Elle essaie d'imiter, on lui demande d'écrire un article, je ne sais pas, sur politique, hein, sur une situation politique, elle va essayer de produire quelque chose, mais comme en plus elle a été renforcée pour plaire, elle va produire quelque chose de très très modéré, extrêmement modéré. Ce qui n'est pas le cas d'un journaliste, par exemple, du New York Times, il y a des articles d'opinion, des articles, voilà, hein, il faut faire quelque chose qui choque un peu, peut-être, pour justement générer de la lecture.
Alors, na naturellement, j'ai fait le test sur les écrits du Marquis de Sade, qui sont pour le coup d'une violence particulière et qui ont. Enfin, voilà, le Marquis de Sade cherchait justement à provoquer, ça allait bien à l'encontre d'écrire quelque chose de policé. Et en fait, le résultat est désastreux. L'IA peut même pas copier
C'est
à
ça.
40% parce que. Parce
C'est
que
ça.
enfin, y a trop de garde-fous, comme tu disais.
C'est ça. Donc il faut faire attention parce qu'on a vraiment d'un côté des publications qui disent que ça y est, l'IA peut faire exactement, on ne peut pas faire la différence entre une IA, le texte produit par une IA et le texte produit par une personne. D'un autre côté, des articles qui disent que dans certaines conditions, vraiment en contrôlant bien les choses, on arrive à faire la différence et donc on ne sait pas quoi penser. Et le troisième élément, c'est que l'IA-Act prévoit que on peut pas produire un texte ou quelque chose, une production automatique, sans le signaler. Il faut informer le lecteur que ce texte a été produit par une IA ou que cette image a été produite par une IA, etc. Et donc, moi, ma position aujourd'hui, hein, c'est de dire qu'on peut pas faire de vérification. On peut, dans certains cas, montrer que c'est pas possible, dans certains cas montrer que c'est possible, mais c'est toujours des cas très spécifiques, très ambigus. Et donc pour moi aujourd'hui, je vois pas comment on peut s'assurer avec une IA ou avec n'importe quelle méthode, s'assurer qu'un texte a été produit par une personne. On peut pas apporter cette preuve-là, et on peut pas apporter non plus la preuve que un texte a été produit par une IA. Donc on n'a pas les moyens de vraiment vérifier ça par la production elle-même. La seule façon de vérifier qu'un texte a été produit automatiquement par une IA, c'est par d'autres moyens que la production. C'est-à-dire d'avoir éventuellement des témoignages, d'avoir éventuellement peut-être des hallucinations. Hein, c'est des indices, des choses comme ça. On peut avoir peut-être quelques indices, une probabilité, voilà, des choses, mais pas tout le temps, pas toujours. Et jamais avec certitude. Voilà, donc ça va compliquer énormément les choses.
Là, effectivement, c'est extrêmement dangereux parce que, comme on voit par exemple pour les images, si je demande à une IA de me générer une fausse identité complète avec toutes les pièces, carte d'identité, relevé de compte, etc. Bon,
C'est
alors,
ça.
même si l'objectif, c'est pas d'inciter les personnes à créer ce type de contenu. En fait, si demain, aujourd'hui, on doit vérifier à l'œil nu, à l'œil d'une personne vigilante, si le document paraît faux ou pas. Donc, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est si l'IA devient de plus en plus efficace et crée des documents de plus en plus
Crédible.
crédible, oui, voilà, parce que pas vrai, mais crédible, comment on va faire pour repérer les faux dans quelques mois, dans quelques années?
Je pense qu'on ne pourra pas le faire, mais c'est déjà le cas, hein. Je pense qu'on ne pourra pas le faire sur la base de la production elle-même. Il faudra un faisceau d'indices autres, extérieurs à la production, à l'œuvre, quoi. C'est pas dans quelques années, hein. Les deepfakes, donc les vidéos, ça fait déjà une bonne dizaine d'années que ça court, hein. Et c'est très difficile de faire la différence entre l'original. Je peux donner plein d'exemples, hein. Je l'ai fait en cours. J'en montre quelques-uns en cours sur l'éthique des IA. l'éthique et l'interprétabilité des IA, des exemples où c'est juste pas possible de faire la différence entre le vrai Trump et le faux Trump, par exemple, sur une vidéo.
C'est fou.
Mais pire que ça, c'est que, ce que les gens ne perçoivent pas forcément, c'est que ça, on pouvait déjà le faire avant, avec des outils qui n'étaient pas du tout d'IA. On peut faire une fausse facture, on peut faire. Voilà. Tout ça, c'était possible avec des outils manuels, hein, des logiciels, mais qui permettent de faire les choses manuellement.
Un
Quelqu'un
Photoshop,
d'expérimenté
bien.
peut trafiquer une facture, peut. Voilà, il y a eu plein d'affaires là-dessus, hein.
Ouais.
Trafiquer des images, trafiquer des vidéos, faire des effets spéciaux, tout est possible. Le problème ne vient pas de là. Il vient du fait que si c'est possible de le faire automatiquement, ça veut dire que Internet peut être inondé de ce genre de contenu. Très rapidement, une seule personne peut inonder complètement un réseau social, un site Internet, des sites Internet. Une seule personne peut vraiment nuire en inondant de fausses factures, de fausses vidéos, de fausses images, de faux sons. Et par ailleurs, en faisant ça, il peut trouver dans la masse des victimes. Donc c'était le cas pour les deepfakes avec des arnaques de type, on a beaucoup parlé de la femme qui s'était fait avoir
Par Brad Pitt.
par un faux Brad Pitt, mais il faut voir que ça peut. Alors là, c'était évident, on peut en rigoler parce que c'était évident que Brad Pitt s'intéresse pas comme ça
Non,
à des
alors,
gens,
pa
mais.
pardon, pardon, mais là, là, ça met, alors même si on en rit, hein, ça met le doigt sur autre chose, la fracture numérique, parce que le nombre de personnes qui sont déconnectées de toutes ces questions-là, qui peuvent se faire avoir beaucoup plus facilement. Alors, ça nous
Bien
paraît
sûr.
grossier parce qu'on est constamment dedans, mais
Non, moi, quand je dis on peut en rire, ça veut
ouais.
dire que moi, ça me fait pas rire vraiment. Et notamment, ça peut aller. Ça, c'était une. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est une arnaque simple.
Oui,
Mais
pour
il y a
ça.
des choses beaucoup plus sophistiquées, hein, qui ont déjà été, dans les années précédentes, exposées. Je me rappelle d'une émission de Les Pieds sur Terre sur France Culture, où une dame expliquait que, elle faisait des visios avec un docteur. Donc c'est pas Brad Pitt, hein, c'est un docteur d'un autre pays, très charmant, très riche, très cultivé. Elle faisait ses visios, mais c'était un deepfake en temps réel. Donc ça devient très très difficile. Et je pense que même des gens très intelligents, très cultivés, peuvent se faire piéger parce que la personne qui a au bout du fil a la même voix que leur père, leur mère, un proche. Exactement la même voix, mais c'est pas la même personne. Voilà. Et donc la problématique, c'est pas tellement que ça, parce que ça on pouvait le faire, mais on pouvait le faire de manière ponctuelle, ça demandait du travail. Là maintenant, c'est fait par des machines, donc ça peut être, on peut inonder Internet avec ces productions-là, et sur la masse, on trouvera toujours quelques victimes, voilà, qui se feront
Ouais,
avoir.
non mais bien
Voilà.
sûr, ouais, on voyait avant les fermes de trolls et aujourd'hui en fait une seule personne derrière
C'est
son
ça. On voit
ordinateur.
très bien ce que c'est le spam par mail qui marche à moitié parce que c'est mal écrit, parce que voilà, etc. Mais quand c'est pas du spam, mais c'est une voix, c'est un coup de fil, c'est une visio, ça devient de plus en plus difficile de pas se faire avoir.
Oui, après.
Et en plus de ça, ça veut dire qu'à un moment donné, le nombre de litiges, de contentieux va exploser. Et bah, on connaît l'état de la justice, tu la connais mieux que moi. C'est pas non plus un système, le système français, pas non plus, croule pas non plus sous les moyens, hein, pour
L'engorgement, oui,
agir,
tout à
quoi.
fait. Mais c'est
Donc voilà.
en fait, c'est ça, c'est grosso modo, l'IA aujourd'hui, elle participe à accentuer le problème et à en même temps être la solution. Donc on est obligé de s'en saisir parce que ça, la quantité de faux, de contentieux va grossir.
C'est
Et
ça.
en même temps,
Ouais, exactement. T'as
c'est assez fou.
exactement vu où est le problème. Hein. C'est
Ouais.
vraiment ça. Et c'est souvent le cas avec les technologies. C'est qu'une nouvelle technologie, on peut l'utiliser en bien ou en mal, hein, pour faire du bien ou faire du mal. Mais très rapidement, en fait, c'est vrai, on se retrouve coincé, obligé d'utiliser parce que finalement, tout le monde l'utilise. Il y a cette espèce de cercle vicieux, hein, qui se met en place. On n'a pas d'autre choix que d'utiliser cette technologie, même si on ne la maîtrise pas, même si on sait que ça a des effets pervers, etc. Et donc il y a cette espèce de course, hein, pour déployer des moyens permettant de réguler de réguler, d'atténuer les risques et les dangers qui sont produits par cette même technologie. Ouais, c'est très
Ouais.
compliqué.
Mais du coup, je te remercie infiniment. J'ai eu beaucoup d'éclairage et j'espère que ceux qui écouteront ce podcast en auront eu également. J'en doute pas. Est-ce qu'il y a, il y a encore quelque chose avec ton regard de scientifique que tu voudrais nous partager, des informations dont on ne débat peut-être pas assez ou qui ne sont pas suffisamment connues du grand public et qu'il conviendrait de savoir pour appréhender ce qui vient avec plus de connaissances?
Bah, moi, ce que je peux dire, c'est que j'encourage tout le monde. Alors, le milieu dans lequel on est, c'est aussi pour ça que j'ai répondu avec plaisir à ton invitation. C'est que mon sentiment, c'est que le grand public est noyé. Quand je parle de grand public, c'est grand public vraiment au sens large, hein, c'est-à-dire y compris des gens qui ont des bac plus 5, bac plus 8 dans différentes disciplines, mais pas l'informatique et pas les maths, sont noyés dans des informations contradictoires et dans des sources contradictoires. Ceux qui ont le plus d'audience, c'est pas les scientifiques, mais ça c'est vrai, ça a toujours été le cas, hein. C'est un peu le mythe de Cassandre, hein. On a ce don de dire, de prévoir l'avenir, mais on a aussi la malédiction d'être entendu par personne. Et du coup, c'est compliqué, donc, parce que la voix des scientifiques, elle est vraiment ténue et on l'entend, elle est vraiment noyée dans ce discours ambiant de gens qui s'autoproclament spécialistes de l'IA, de gens qui ont des intérêts très spécifiques, comme évidemment, les grandes big tech, hein, les GAFAM, etc. Et du coup, c'est très difficile de se faire une opinion parce que qui on écoute, on ne sait pas qui on écoute au final, hein, sur quoi se fier. On a des intérêts divergents, parfois des intérêts divergents. Et donc du coup, moi, ce que j'encourage le plus, hein, les gens, c'est de se faire leur propre opinion, mais en prenant le temps quand même de se renseigner, de s'informer, de se former. C'est-à-dire qu'au final, vraiment, il faut avoir confiance en soi-même sur sa capacité de juger des discours. Voilà, de juger des discours autour de l'IA et autour de l'informatique. Donc ça peut passer par des formations, par la participation à des conférences de vulgarisation, évidemment, en s'assurant que la personne qui parle est qualifiée pour parler, en s'assurant qu'elle n'a pas des intérêts qui sont contraires ou divergents avec avec les siens. Et après, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, mais les entreprises ont peut-être aussi intérêt à se tourner un petit peu plus vers les centres de recherche publics et les universités. Parce que peu de monde le sait, en fait, hein, mais les universités, les centres de recherche sont capables de faire des prestations de recherche, mais aussi des prestations de conseil. Et elles ont cet avantage de ne pas être liées à des intérêts particuliers. C'est le service public, donc on a comme mission de rendre service au public. Et on a comme déontologie de dire la vérité.
Tout à fait.
Donc c'est peut-être. Et on n'est pas très cher par rapport à d'autres.
C'est très bien et tu fais tout à fait, t'as tout à fait raison de le préciser. Ça ne sera pas le réflexe de toutes les entreprises de faire appel à l'université. Et effectivement, on n'entend pas suffisamment les universitaires. C'est d'ailleurs pour ça que tu es le premier invité et que d'autres suivront avec une expertise dans laquelle ils s'exprimeront et parce qu'ils seront en capacité de le faire en tant qu'expert. Donc, merci beaucoup. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Moi, j'ai passé un très bon moment et j'espère, Pierre, pouvoir te réinviter dans ce podcast.
Ça sera avec très grand plaisir et c'était un très grand honneur pour moi d'avoir été invité pour ce premier épisode. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.